l'église Saint-Salomon de Montargis, mais là je ne vais pas vous parler de Montargis, bien que ce soit une ville très importante et très riche. Bien, je vais vous parler du site de Cortra que nous allons gagner d'ici une petite dizaine de minutes. Alors Cortra, c'est un site très connu chez les historiens et les archéologues, alors que c'est une des plus petites communes de l'arrondissement de Montargis et au dernier recensement 86 habitants. Bon, vous verrez, en face de l'église, il y a la mairie et une autre maison. Bon. Le centre de Cortra est très petit. Alors, Cortra doit sa célébrité à deux cimetières antiques et à son église. Alors, son église, vous la connaissez sans doute de réputation, elle est de facteur extrêmement modeste, mais le portail intrigue les chercheurs, et en particulier a beaucoup intrigué nos deux regrettés savants locaux que vous connaissez. J'ai cité l'abbé Nolan et l'abbé Garnier, tous deux disparus malheureusement. Alors, tout d'abord, un petit peu d'étymologie. Alors, Cortra, c'est un nom mérovingien. Bon, exactement, d'origine franque. C'est Cortis Erardi, le domaine d'Erard. Je vous rappelle qu'en bas latin, Cortis, qui vient du latin classique corse, désignait la cour de ferme, la cour du domaine. Bon. Alors, quelques mots sur l'histoire de ces deux cimetières. Alors, le plus ancien remonte à l'époque de l'Athènes 4. Bon, nous ne le verrons pas, bien sûr. Il contient des... d'autres non plus, d'ailleurs. Il contient des tombes de guerriers, et il a été découvert en même temps que l'autre cimetière, le premier cimetière de notre 4e siècle, qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant, tout au moins pour nous. Alors, la découverte est assez récente. Elle date de novembre 1958. Alors, c'est l'histoire de quelques jeunes passionnés d'archéo, qui étaient dirigés par un chercheur local expérimenté de Châtillon-Coligny, que certains ont connu peut-être, auquel nous rendons hommage d'ailleurs, puisqu'il est mort récemment. C'était M. Hubert Zurflu. Alors, ces chercheurs, ces jeunes chercheurs, ont mis à jour deux tombes estimées mérovingiennes. Et au cours des années suivantes, on a continué de fouiller, l'équipe a découvert un cimetière de 33 tombes, et ils ont révélé ce qu'on appelle un mobilier, vous savez, d'une très grande richesse. Et puis tout d'un coup, les savants se sont intéressés à ces découvertes. Et on a pu lire en 1963 dans la très sérieuse revue archéologique, je vous rappelle qu'elle a été créée en 1864, un grand titre, un grand bandeau, un cimetière des Lettes à Cortrin-Loiret. Ça vous intrigue. Et dans cette même revue, l'année suivante, M. Charles Picard, de l'Institut, un très grand savant, publiait un article extrêmement pointu sur les bijoux qui avaient été exhumés dans ce village jusqu'alors totalement inconnu du Gâtinais, et qui comparait aux bijoux trouvés en Pannonie, d'une part, sur les bords du Danube, et en Afrique du Nord, de l'autre. Alors, parmi ce trésor, deux exemples seulement. Le premier, qui est extrait de la tombe 26, que vous ne verrez pas d'ailleurs. Un grand collier d'ambre à double rangée et une paire de fibules en forme de clochette. Et le second, trouvé dans la tombe numéro 30, un homme armé d'une hache. Et c'est le plus ancien type de Francisque connu. Et en même temps, ce guerrier était un homme élégant, puisqu'on a trouvé à ses côtés un peigne en os et une paire de forces, c'est-à-dire des ciseaux, pour se tailler la barbe. Alors, une première analyse a révélé que les squelettes inhumés étaient ceux des Lettes, L majuscule E accent grave TES, à savoir des soldats d'origine barbare, ce que le nom ne l'indique pas, qui avaient été enrôlés comme auxiliaires dans les légions romaines, disons à l'époque du Bas-Empire. Alors, sur l'appellation de Lettes, on discute beaucoup. Alors, selon certains, le mot viendrait d'un terme germanique et désignerait ceux qu'on a laissés vivre après une capture, qu'on a épargné après une défaite. Et selon la transcription latine laeti, pluriel de laetus, ça serait les heureux, par antiphrase, puisque puisqu'ils sont esclaves, ils ne sont pas heureux du tout. Alors dans l'Empire, ces barbares avaient des statuts différents. Alors là, je me suis tuyauté près d'un savant local, un autre, Jean-Henri Bauchy, qui en parle dans un bouquin qui s'appelle « Récit des temps carolingiens » et que m'a prêté Madame Garbon, je lui remercie beaucoup, parce que j'y ai appris pas mal de choses. Alors il dit justement, on distingue trois catégories de ces barbares qui sont venus sur notre sol, manger notre pain. Bon. Les Déditis, alors en latin Dedicitii, soumis sans condition, enrôlés de force après avoir été prisonniers. Deuxièmement, il y a les Federati, donc les fédérés. Les fédérés qui avaient gardé une certaine autonomie, comme en particulier les Goths, qui étaient enrôlés dans l'armée romaine. Federati, ça vient de foedus, c'est-à-dire le traité, donc il y avait une valeur de contrat. Les lettres proprement dites, alors troisième catégorie, là, celle qui nous intéresse, les lettres proprement dites, dont la plus ancienne mention est faite dans un texte qui s'appelle le panégyrique à l'empereur Constance, et qui date de 297 de notre ère. Alors ce texte les désigne comme des soldats laboureurs, c'est un peu comme Bugeaud là-bas en Afrique du Nord, ouais, et qui avaient pour tâche de cultiver les champs, en particulier les champs des Nerviens, hein, au nord de la Gaule, et des Trévires. Je rappelle que Trève, c'est Augusta Trévirorum, voilà, qui avait été laissé en friche. Alors, outre l'entretien des terres, Rome leur assigne un rôle de garde et d'occupation militaire. Vous voyez ? Bon, ils sont effectivement commandés par des préfecti laetorum, préfet des lettres, sous les ordres d'un officier supérieur romain qui coiffe le tout et qu'on appelle parfois le magister militum, à distinguer d'autres magistères. Bon. Alors, ces lettres en Gaule sont d'origine diverse. Alors, on y trouve à type exemple une colonie de Teutons chez les Carnutes, à Chartres exactement. Une colonie de Bataves, à Bayeux. Une colonie de Suèves au Mans, de Francs à Redon. Oui. Et en ce qui concerne les nôtres, on s'accorde à penser qu'ils viennent de Pannonie, c'est-à-dire de Hongrie actuelle. Oui, ce sont des immigrés comme notre président. Et notamment à cause. Notamment à cause du mobilier qu'on a trouvé dans les tombes. Bon. Et alors on a fait des rapprochements avec le résultat de fouilles en Hongrie, exactement de Salaska en 1900, en particulier dans la tombe d'une prêtresse du culte du couple de Dieu, Sol et Luna, c'est-à-dire le soleil et la lune. Alors, autre rapprochement plus hasardeux, qui est noté par Jacques-Henri Bauchy, que m'avait signalé Madame Garbon, lors de Journée du sang, en 1962, dans la région de Cortrale, justement, les médecins ont constaté que la plupart du sang recueilli appartenait au groupe AB, rare chez nous, mais très fréquent en Europe centrale. Alors, y aurait-il des descendants des lettres dans le Loiret ? L'énigme reste entière. Je n'ai pas d'autres renseignements là-dessus. La seule source, c'est Henri Bauchy. Alors, seconde énigme de Cortra, c'est celle de son église Saint-Martin, que nous espérons voir, parce que Cortra n'est pas facile d'accès, laquelle est certainement très ancienne, mais elle ne remonte pas tout de même avant la fin du XIe siècle. Bon, c'est pas si vieux que Germigny. Et surtout de son portail, qui est constitué d'un linteau irrégulier, et ce linteau doit certainement provenir d'un sarcophage, et d'un tympan, en plus du sarcophage, un tympan orné de losanges gravés. Alors ce décor, à nous, il nous paraît un petit peu primitif, un peu fruste, et de ce fait, il est très touchant. Mais il a posé aux spécialistes des problèmes absolument quasi insolubles. Alors, deux lectures peuvent être proposées, je vous en parle tout de suite. Je vais essayer de vous les schématiser, mais vaille que vaille. Alors, selon l'abbé Nolan, la décoration du tympan avec des rayons, des étoiles, plus un petit personnage que vous verrez, j'espère, côté gauche, la main gauche sur la cuisse, et faisant le salut militaire. Bon, c'est pas un soldat romain, non. Il ferait penser à un oriental. Le geste du personnage, c'est certainement un geste d'adoration, qui adressait une divinité, bien entendu, une divinité astrale, solaire, alors ce qui corroborait la similitude avec le décor de la fameuse tombe de Hongrie. Là. Et alors, à ce moment-là, il passe en revue toutes les interprétations diverses. Alors, il y aurait le thème sassanide de l'immortalité, le thème celtique à la mode irlandaise, le thème chrétien du paradis, sans parler de ce qu'il appelle l'hypostase céleste d'Artémis. Alors, je vous livre ça, je ne sais pas ce que c'est, bon, mais sans doute que vous comprendrez mieux que moi. Alors, il conclut, c'est toujours l'abbé Nolan, « Cortra ne serait-il qu'un syncrétisme sur le sol gaulois des idées circulant de l'Inde à l'Irlande à travers les millénaires ?» Et il pose la question ultime que nous poserons, et pourquoi sur le portail de cette petite église perdue? Alors, l'abbé Garnier propose une lecture plus simple, la sculpture de l'Into. Il y a un registre en deux parties qui évoquerait d'un côté le mal et l'orgueil, à gauche, représenté par un lion, c'est bizarre, enfin, et l'ordre et la vertu figuré par un animal qui serait sans doute un agneau. Voilà, ça me paraît plus simple, mais c'est pas non plus lumineux. Alors je termine en disant que toute autre suggestion, après observation du fameux portail, sera la bienvenue. Et maintenant, nous brûlons de voir le linteau de Cortra.